scientifique et imaginatif. Donc voilà, donc pour parler de tout cela, nous avons ici Joël Vintrebert qui a fait des études de cinéma à Paris, qui l'a amené vers l'audiovisuel. Elle est devenue critique littéraire et cinématographique. Il ne faut pas hésiter à m'arrêter si je dis des bêtises. Elle est ainsi que rédactrice en chef à la revue Horizon du Fantastique. Elle est aussi auteure de tout type de romans, nouvelles, séries télévisées. Donc science-fiction, fantastique, thriller, contemporain, jeunesse, j'en oublie.
Et historique.
Historique. Et elle est aussi conférencière. Donc merci d'être là. Raphaël Granier de Cassagnac, qui est chercheur en physique des particules. Il est aussi passionné par les mondes de l'imaginaire, surtout les jeux de rôle, autour desquels il a écrit un certain nombre de scénarios, des suppléments, des livres. Il est donc écrivain, auteur de nouvelles et d'un roman qui est sorti l'an dernier, c'est en 2010, Eternity Incorporated. Je dirais qu'à lui seul, il fait déjà un pont entre la science et la littérature. Tommaso Pinchot nous vient d'Italie, mais en France, on connaît quelques romans, Un amour d'autre tombe ou Le signance de l'espace. Il est collaborateur de plusieurs journaux dans son pays, donc Rolling Stones, c'est bien ça ? Et il est aussi traducteur, il a traduit, excusez du peu, Philippe K. Dick, Jacques Kerouac, c'est ça. David Morin-Hullmann, lui, est nantais, donc il est ici, chercheur en sociologie, rattaché à l'Observatoire des mondes numériques en sciences humaines. Il est l'auteur de plusieurs études, et il sait nous parler de superstructure des imaginaires ou de l'anthropologie de l'innovation. Voilà, donc c'est ce qui pourra certainement nous aider aujourd'hui. Et Carole Ecoffé nous vient du CNRS, Mulhouse. Elle s'intéresse fortement à la diffusion de la culture scientifique, en particulier au travers de son association Les Petits Débrouillards, dont elle fait partie. Et elle est aussi conférencière. On la retrouve assez souvent. Alors, je voudrais d'abord commencer par parler la science. Dans la science-fiction, on retrouve de la science. Ce qui veut dire que la science est certainement une source d'inspiration, une source d'influence sur la littérature en général. Donc je ne sais pas, je vais te donner la parole. Est-ce que tu es influencé par la science lorsque tu écris tes livres ?
Oui, bien entendu. On peut dire que la science qui m'a toujours le plus intéressée, parce que je n'ai pas une formation scientifique à l'origine, je suis une littéraire, hein, j'ai fait des études de lettres et de cinéma, comme tu l'as dit tout à l'heure. La science qui m'a toujours le plus passionnée, le plus intéressée et que j'ai le plus creusée, parce que les sciences dures, dites dures, sont plus difficiles d'accès pour moi, c'est la biologie. Voilà. Quand j'ai publié mon premier roman, ça remonte pas hier, j'ose à peine le dire maintenant, c'était en 1980, c'était sur le clonage et le dopage, et j'avais vraiment, dès cette époque-là, creusé vraiment ces domaines-là, et j'avais à cœur, alors que j'étais encore un jeune auteur, de donner à mes lecteurs quelque chose qui soit vraiment fondé. Donc je m'étais vraiment documentée sur ce qui était déjà le clonage à l'époque, même si c'était très occulte et très c'était vraiment absolument pas... On n'en avait pas du tout les éléments comme on les a maintenant. Et je m'étais documentée aussi sur la sociologie du sport, parce qu'il y avait des livres très intéressants, notamment ceux d'un sociologue qui s'appelle Jean-Marie Brome, que certains connaissent peut-être ici. Sur le clonage, en revanche, bon, évidemment, quand on voulait creuser un petit peu au niveau scientifique, on pouvait avoir vraiment des éléments. Donc je suis toujours intéressée à la science, bien sûr. Je suis abonnée à la revue La Recherche, que beaucoup d'entre vous connaissent peut-être depuis son numéro 1. Et pour moi, c'est vraiment c'est quelque chose d'important. Enfin, ça fonde nos vies et c'est quelque chose que j'ai jamais rejeté en tant qu'auteur. Voilà, c'est fondateur.
C'est fondateur. Et pour Tommaso Pinchot, vous
First of all, let me apologize for not speaking in French. And yes, of course, I'm influenced by science too, because science influences the world in which we live, influence our life, change our life, and so all of us are influenced by science, and sometimes we are influenced, sometimes we have hope about our future because of science, sometimes we have concerns. Myself, I like to read a scientific book, especially a book of physics, just for fun, not because to take inspiration, because I find some kind of poetry in physics of books. And it's a delight for me, even if I understand the 10% of what I read. And I read many novels which are related to a scientific problem. For instance, in my last novel, I imagine a world completely changed by the global warming. But what I'm writing, I try to forget a little bit what I know about science, because I think when a writer tries to be a scientist, it's very difficult. He can do a good job. Science, to me, it serves like a background to create an imagination, an imaginative world. But I think that the most important thing for a writer is to use his imagination to make this world believable in terms of human needs.
Donc sur le sujet sur science et littérature, alors moi j'ai un tout autre point de vue puisque je suis chercheur et je suis amenée assez régulièrement à parler de science au grand public. Et à partir de ce moment-là, on se rend compte qu'entre la manière de parler de science entre pairs pour des articles dans des revues internationales et la manière dont on va parler au public, on est obligé déjà de faire un travail de mise en mots, de transformation de nos idées, et on va inventer une histoire, on va inventer une aventure, sinon on ne va pas être en mesure de capter un public en conférence. Cette façon de faire demande déjà un travail personnel, parce qu'on a été formaté dans une façon de penser, et on est obligé de faire autre chose. En revanche, en ce qui concerne les relations avec des écrivains ou des artistes, je me méfie d'une chose, c'est lorsqu'on leur propose le produit tel qu'on le propose en conférence ou tel qu'on va le proposer dans un article de vulgarisation, parce que là, on aura déjà, nous en tant que chercheurs ou le journaliste, aura un parti pris d'une présentation d'une aventure. Mais l'idée même qui aura, telle qu'elle est dans la tête du chercheur ou au moment où on a la mise en forme de cette histoire, il y a une idée initiale, et celle-là, elle est un peu cachée par toute l'histoire qu'on va raconter pour la transmettre. Et du coup, ce qui me plaît, c'est d'avoir un vrai dialogue, un peu à bâton rompu, sur un autre mode, qui n'est pas celui de la vulgarisation, avec les écrivains ou les artistes. Donc, c'est un travail qui me semble différent du travail de préparation d'une conférence ou d'un article grand public. Il y a deux aspects qui me semblent importants à distinguer.
Mais c'est quelque chose que vous faites régulièrement, de dialoguer avec des écrivains, des gens qui viennent, qui viennent du milieu littéraire ou artistique pour essayer de créer un pont.
Alors il y a des fois des petites remarques que j'aime bien sur la manière dont moi je pense la lumière. Lorsqu'on me parle de lumière, lorsqu'on me parle de couleur, j'y associe une longueur qui est une longueur d'onde. Alors que des fois, quand je raconte ça à des personnes qui ne sont pas du tout scientifiques, on me dit, mais attends, le rouge, c'est le rouge. Oui, je dis, mais moi, j'y associe une longueur, quoi. C'est, ma formation fait que ces couleurs ne sont pas... si on perçoit une couleur, c'est déjà qu'il y a une longueur d'onde. Ensuite, c'est qu'on n'a que 3 capteurs dans les yeux qui capte le vert, le rouge, le bleu, et non pas tous les spectres. Moi, j'analyse tous les spectres grâce à un autre appareil. Et ça me donne une autre vision du monde. Ce n'est pas simplement raconter qu'est-ce que la lumière. C'est qu'au quotidien, je peux m'interroger sur un phénomène en le regardant avec plusieurs facettes. Et c'est ce côté un peu décalé de la pensée du monde qui m'intéresse. Et ça, on ne peut pas toujours le transmettre au travers d'un seul article. Ça va être des petites remarques sur les phénomènes quotidiens. Alors c'est pour ça que des fois, les actions que j'ai pu mener au sein des petits débrouillards avec les enfants sont intéressantes aussi. Parce qu'on se décale de la vision habituelle des choses et on donne une autre conception du monde. À un moment, j'avais fait une conférence, enfin je continue à la faire de temps en temps, qui s'appelle « Un monde d'ondes ». Et j'essaye de faire sentir la manière dont un scientifique qui est conscient des phénomènes ondulatoires peut interpréter le monde en disant ben, « Tiens, là, quand j'entends quelque chose, je reçois un signal complètement bruité et je le réinterprète en fréquence. » Donc, ça nous donne une autre vision des choses. Enfin, on repense le monde différemment. Et je travaille également sur des projets Arts et Sciences où j'essaye de transmettre. J'ai fait cette conférence au niveau des Arts Déco à Paris, de l'ENSAD à Paris, et j'ai essayé de transmettre aussi cette vision pour voir comment des artistes vont s'en emparer pour créer des œuvres qui donneront du monde qui nous entoure une autre perception.
Alors, Raphaël Grani de Cassagnac, vous êtes donc chercheur en particulier, mais quel est le rapport et comment est-ce qu'on peut faire un lien entre ce travail de chercheur et, par exemple, la réflexion sur Abîme, sur le livre?
Sur Abîme, alors Abîme, c'est un livre qui présente une cité qui est décrite de façon très graphique et aussi littéraire, avec des plans et des choses comme ça. Il y a la librairie si ça vous intéresse. Non, alors entre Abîme et la science, il y a pour moi quasiment aucun rapport. Abîme, c'est de la fantaisie. La fantaisie, c'est sans doute la littérature de l'imaginaire qui est peut-être la plus éloignée de la science, quoique on peut trouver des auteurs qui mettent beaucoup de science dans des ouvrages de fantaisie, mais dans Tolkien, il n'y a pas beaucoup de science, par exemple. Donc non, entre Abîme et mon métier, il y a très très peu de place. Peut-être sur la coordination du travail on était quatre auteurs sur Abîme avec un illustrateur, un cartographe, beaucoup d'acteurs. Comme ça, c'est quelque chose qui se rapproche un peu de certains travaux scientifiques. Moi, je travaille au CERN à Genève dans des expériences où on est 2000, donc travailler sur un seul appareil de façon extrêmement collective. Donc là, il y a peut-être un petit pont qu'on peut faire, mais vraiment sur la partie opératoire du travail. Mais pour revenir sur ce que tu disais au début, pour moi qui fais de la science toute la journée, quand j'ai commencé à écrire, surtout, j'ai pas mis de science dans ce que j'écrivais. J'avais besoin de m'évader, de faire autre chose. Mes nuits n'étaient pas peuplées de science. Mais à terme, aujourd'hui, je me rends compte qu'il y a un peu de science dans mon roman. Il y en aura encore plus dans le deuxième. Donc peut-être que oui. Évidemment, c'est la même personne à la fin qui écrit, donc il y a énormément d'influence. Mais pour moi, elle est très... très éloigné, et j'aime beaucoup ce que tu disais, Tommaso, quand tu dis que justement, quand on écrit, il faut essayer d'oublier un peu ce qu'on sait de la science pour le dire de façon intelligente.
Bien, merci. Alors, on a parlé de science, on va dire, dure jusqu'à présent, mais alors après, est-ce que la philosophie, on peut la traduire à travers de la littérature? Est-ce que ça a une influence? Est-ce que...
En fait, je voudrais reprendre l'expression de Tommaso, « kind of poetry ». Je trouve que c'est là que se trouve le tirage. Pour ceux qui étaient là hier, pardonnez-moi, mais je vais répéter le fait qu'il y a quelque chose de très important dans science-fiction. Avant, c'était la science-fiction. Bref, il y a quelque chose qui est là, un pont, tu as parlé de pont, et donc c'est le tiret. Et là, le kind of poetry, c'est ce qu'on appelle aussi en France la poétique de la science. Et cette poétique de la science, on la trouve tout de suite dès 1856 par les frères Goncourt, lorsqu'ils donnent la première définition de ce qu'est la science-fiction, qui n'existe pas encore au sens de mots, c'est 1856, et ils parlent de merveilleux scientifique. Donc, kind of poetry et merveilleux scientifique, ça va vraiment ensemble. Ce qui m'intéresse dans cette histoire, c'est surtout d'essayer de trouver, en tant que philosophe et sociologue, essayer de trouver deux choses. En tant que philosophe, c'est le moment de rencontre entre la science et la fiction, ce qu'on appelle les conditions de possibilité de la rencontre. C'est-à-dire, quand est-ce que la littérature a pu se faire influencer, envahir, contaminer, etc. Il faudra choisir son vocabulaire, mais il y a quelque chose de l'ordre de la colonisation de l'inconscient, de la fiction. Il y a quelque chose de l'ordre du transport, c'est-à-dire justement le pont du petit tiret. Donc ça, c'était le premier point du philosophe. Et puis après, celui du sociologue, c'est la question de savoir comment se fait-il que notre monde accepte aussi bien, alors évidemment, c'est la 12e session, 12e utopiale, comment se fait-il que ce monde accepte aussi bien la science-fiction? Eh bien là, du coup, c'est le sociologue qui va commencer à recevoir des fax, comme je dis, qui va recevoir des intuitions, qui va aller les chercher, aller voir les gens dans le réel et vous poser des questions sur les deux champs, ce qu'on appelle des champs, des lieux, des mondes de production. Donc il y a le monde de production de la science et le monde de production de la fiction. Et comment ces gens-là, justement, sont influencés depuis qu'ils sont petits, parce qu'il y a la télévision, parce qu'ils ont été intéressés par, justement, le kind of poetry. Ils ont lu, ils sont tombés sur un livre de mathématiques, et ils ne comprenaient pas les mathématiques, mais c'était quelque chose de l'ordre du magique, et c'est resté dans leur tête. Ou au contraire, comment on est devenu scientifique, c'est-à-dire qu'on avait la même chose en face de soi, des mathématiques, mais justement, on voulait absolument percer le secret des mathématiques. C'est-à-dire que là, je suis en train de vous dire qu'évidemment, les mathématiques ont quelque chose d'archaïque. C'est à la fois moderne et archaïque. Archaïque au sens où c'est magique. Attention avec des guillemets, hein. Mais il n'empêche, quelque chose d'archaïque, c'est-à-dire quelque chose de qualitatif. Quelque chose de, je reprends les frères Goncourt, de merveilleux. Voilà. Et donc, c'est toujours ces ponts-là. Et puis, j'arrête là-dessus, mais il y a une petite chose importante. Dans les conditions de possibilité de la rencontre entre le monde de la science et le monde de la fiction, c'est évidemment, il me semble, on en a parlé aussi dans les différentes conférences et tables rondes, c'est ce qu'on appelle la mort de Dieu, qui ne commence pas avec Nietzsche, mais qui commence avec Hegel. Et lorsque l'on parle de la mort de Dieu, c'est une période très particulière, c'est justement où on commence à formaliser le monde tel qu'il est. Il y a des chemins de fer, il y a de la méthode, il y a Buffon est passé par là. Bref, on a un monde qui commence à ce qu'on appelle en sociologie se bureaucratiser, se rationaliser, et apparaît quelque chose qui s'appelle donc la fiction, qui elle-même se bureaucratise et se rationalise, mais pour pouvoir mieux s'évader. Donc c'est amusant parce qu'on a à la fois un monde qui propose de la bureaucratisation, avec des guillemets, hein, de la bureaucratisation, de la rationalisation, et dans cette bureaucratisation, des gens qui vont dire « Ah non, moi je ne veux pas être bureaucratisé, je ne veux pas rationaliser, je vais faire de la fantasy, je vais faire de la fiction, je vais faire de la science-fiction, bref, on va partir ailleurs ».
Alors justement, puisque on est parti à parler d'histoire, on est remonté très loin dans le passé. Moi, je n'étais pas remonté tout à fait aussi loin. Moi, j'étais resté sur Verne. Est-ce qu'il y a des gens qui ont envie de parler de l'évolution, de la manière dont finalement il y a eu quand on regarde l'évolution de la littérature de l'imaginaire, je dirais, depuis en gros disons le début du XXe siècle, donc depuis un petit peu Verne ou Marie Shelley, on voit qu'il y a un certain nombre de thèmes qui sont arrivés, qui étaient peut-être vaguement en phase en fait avec l'époque, et donc comment la science de l'époque influençait la littérature de l'imaginaire de l'époque.
Sur Verne, je peux peut-être commenter un peu parce que après Abîm, on a fait Lovecraft, Kadat, et le troisième, il va être sur Jules Verne. Donc en ce moment, je relis Verne en long, en large et en travers. Verne, ce qui est intéressant dans son rapport entre la science et la fiction, c'est souvent on le catégorise comme premier auteur de science-fiction. Pour moi, c'est pas tout à fait. Enfin, c'est peut-être ça, mais il a une façon de parler de la science qui est assez particulière. C'est qu'il parle vraiment de la science. Il n'invente pas énormément de choses. Quand il va dans la Lune, c'est avec un canon. C'est de la technologie qui est complètement classique à l'époque. Dès que l'électricité se répand, il en met dans tous ses romans, il parle beaucoup de chemin de fer, de ballons. Donc il prend vraiment la science telle qu'elle est aujourd'hui, enfin à son époque à lui, et il la pousse juste un petit peu plus loin. Il n'invente pas des chemins de traverse comme les auteurs de science-fiction font plus aujourd'hui, je pense.
On a opposé Verne à Wells, enfin Wells à Verne, en disant justement que Wells était beaucoup plus prospectif. Et il avait beaucoup plus, d'ailleurs c'était rigolo parce que Wells a été à la fois un peu futurologue et à la fois romancier, et finalement il a beaucoup mieux prédit l'avenir dans ses romans que dans ses écrits de futurologie en fait, dans ses écrits prospectifs. Où il s'est trompé complètement. Par exemple, il disait que le sous-marin, ça ne marcherait jamais, alors que le sous-marin a très bien marché. Et en revanche, Verne, qui lui, extrapolé, a bien mis en scène, à partir des données de son époque, comme on vient de le dire, a bien mis en scène un sous-marin, alors que... voilà. Donc, on les a opposés tous les deux, parce que justement, Verne a été... été un écrivain finalement plus du merveilleux scientifique, justement. Et Wells était un auteur qui paraissait s'évader beaucoup plus, qui était beaucoup plus prospectif. Voilà.
Alors, après Verne et Wells, il y a eu quand même, enfin, je dirais, on pourrait presque même classifier les époques de la science-fiction, enfin, de la littérature de l'imaginaire au cours du XXe siècle. Il y a eu des périodes où on parlait plus de robotique, il y a eu Asimov, il y a eu des choses comme ça. On a parlé, il y a eu l'informatique, il y a l'informatisation, les puces. Ensuite, à d'autres moments, on a parlé plutôt de surveillance, un peu de la manière dont les gens pouvaient être surveillés. On a eu une époque, quand même, je pense, il y a à peu près 10 ans, où on parlait beaucoup d'écologie dans les romans. Aujourd'hui, ça se perd un petit peu. Est-ce que ce rapport entre la science et la science-fiction, c'était pas plutôt un truc du XXe siècle?
Alors, de manière générale, là, on peut remarquer que les thèmes dont tu viens de parler sont des thèmes qui correspondaient à l'ère du temps, quoi. Vraiment à des choses dont les gens parlaient. Et il y a un moment, on avait besoin de réfléchir dessus. Du coup, c'était assez naturel d'avoir des écrivains, surtout les écrivains de science-fiction, qui s'emparaient de ces sujets-là. Puisqu'on ne savait pas où on allait, il fallait faire de la science-fiction. On ne pouvait pas rester dans la description simple. Mais au-delà de ça, le XXe siècle, pour moi, a été marqué par l'apparition de nouvelles théories. XIXe siècle, on était très positiviste. On pensait qu'on allait pouvoir tout prévoir, tout calculer. On pensait qu'on atteignait les limites de la logique scientifique. Et donc, Verne écrit à ce moment-là. Et arrive au XXe siècle la théorie de la relativité, la mécanique quantique, où on découvre, alors on nous dit, une particule peut être là et là en même temps, enfin, même si c'est symbolique, mais on arrive à des concepts qui dépassent complètement l'entendement. Et on est obligé de créer de nouvelles images, de nouvelles façons de penser le monde. Le déterminisme est complètement remis en cause par les théories du chaos. On nous parle de l'effet papillon. Aujourd'hui, quand on parle d'effet papillon, tout le monde a une idée un petit peu de ce que c'est. On nous parle de phénomènes qui, même si on ne comprend pas tout à fait ce que ça veut dire, mais on se rend compte que tout le déterminisme dont nous parlait à la fin du XXe siècle est remis en cause. Et là, derrière, je crois qu'il y a aussi un certain nombre d'écrivains qui se sont emparés de cette possibilité d'avoir des choses qui n'étaient plus prévisibles ou qui avaient plusieurs réalités qui existaient en parallèle. Et pour faire passer toutes les pensées poétiques, toutes les pensées du monde qui peuvent être derrière, et avec la littérature, la science est un peu asséchée. On a des formules, on a des tas de choses qui nous permettent, nous, de le voir sur des formules mathématiques, mais le transmettre, c'est extrêmement compliqué.
Oui, alors, en rebondissant sur ce que vous dites, ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est que nous avons d'un côté, il me semble, mais donc d'un côté une remise en cause de la science et en même temps une certitude de la science, c'est-à-dire qu'il y a une concurrence entre différentes théories sur ce qu'est la science et ce que peut la science. Et par exemple, il me semble que à partir de la seconde moitié du XXe siècle jusqu'à aujourd'hui, la science fait de la fiction, c'est-à-dire qu'auparavant la science n'avait que pour moteur le possible, et bien aujourd'hui la science a pour moteur l'impossible. Et c'est amusant parce que c'est également Hegel qui écrit ça dans l'introduction de Phénoménologie de l'esprit dès 1807, et il écrit des petites choses sur la science et qui seront reprises après par ce qu'on appelle l'école de Francfort, mais surtout aussi d'autres, un monsieur qui s'appelle Heidegger, qui n'est pas forcément un philosophe, qui est très intéressant, mais qu'il ne faut pas forcément côtoyer trop longtemps, bref. Mais en tout cas, dans les années 50, lui voyait bien que le moteur de la science, c'était devenu l'impossible. L'impossible, évidemment, qui se réalise. Donc c'est là aussi peut-être où il y a une difficulté pour les auteurs de science-fiction, c'est qu'ils ne peuvent plus faire de science-fiction au sens où c'est la science qui fait de la fiction.
Oui, moi je rebondis sur quelque chose que tu disais et avec qui j'ai discuté hier avec quelqu'un de ça, c'était assez intéressant. Il n'y a pas que les auteurs qui font de la hard science, comme on dit, c'est-à-dire vraiment de la science-fiction très centrée sur la science. Les scientifiques eux-mêmes en font, et je pense que c'est essentiellement depuis Einstein, depuis la relativité. La relativité, c'est la beauté mathématique de quelque chose, ouvre sur des concepts complètement fous, comme le temps passe pas pareil pour tout le monde, hein, il y a des choses comme ça. Et depuis Einstein, les scientifiques continuent à faire ça. Il y a des gens aujourd'hui qui parlent de on vivrait dans un monde à 11 dimensions, des choses comme ça. Et ça, pour moi, c'est la meilleure art science qu'on puisse faire, et elle vient vraiment des mathématiques, et c'est les scientifiques qui la font. Donc il n'y a pas que les auteurs qui s'aventurent dans des voies comme ça. Et ça, c'est des théories qui sont essentiellement très difficiles à vérifier. Donc ces scientifiques-là vivent un peu dans un monde qui est un monde très imaginaire, en fait.
Et puis, éventuellement, les scientifiques font appel aux auteurs de science-fiction.
Voilà, alors c'est
depuis longtemps, d'ailleurs.
C'était un peu ce dont je voulais qu'on aborde maintenant, qui était... on a parlé de la science et la manière dont elle servait et dont elle était utilisée en littérature. Mais c'est pas un seul sens, si ça, ou est-ce que la littérature elle-même peut travailler et influencer la science et le travail des scientifiques?
Eh bien, il y a fort longtemps déjà, enfin, je me souviens quand on était invités, nous, les auteurs de science-fiction, aux Mureaux par l'aérospatiale, et puis bon, encore beaucoup plus récemment, l'aérospatiale convoquait des auteurs de SF comme Claude Aiken, qui est un de nos auteurs de Art Science, si tant est que nous en ayons. Mais on peut le dire, Claude en est un. Et vraiment, je pense qu'ils ont besoin de cet apport d'idées, de cet échange extrêmement nourrissant, et qu'ils sont en demande de ces échanges. Voilà, je pense que c'est important pour eux, comme c'est important pour nous les auteurs, d'avoir des échanges avec les scientifiques.
I think when we consider the relationship within literature and science, we have to never forget we are basically human beings. This is the only real difference to me between science and literature, because literature is about how we can decide what is important to us. For instance, it might be important to go to the moon. We don't know why, you know, but it could be important. And science fiction, but also literature in general, is about how we realize that this kind of desire is important to us. Science, on the other hand, is about how this desire can function and how this desire can be possible. So in a way, scientists try to forget they are human beings, because they try to consider the problem as the human being doesn't exist. I mean, the moon would be there even if we weren't here. But as a matter of fact, they are human beings. So probably when they when they analyze a problem, they use a sort of imagination frame created by other humans, and in some ways this might influence their research. It's very interesting what you say before, that science before the 50s was about which is possible and afterwards which is not possible. I don't know if it's really true. Maybe scientists think in a different way. But during the 60s, as a matter of fact, there is a very marking point in science fiction, because it was the best time of the space traveling epopea. But after we... the space program of the National American Space Agency has been cancelled. Science fiction get into crisis. And not only science fiction, but also people who were producing computers for the NASA. And so they had to change, the way they use their technology. And many people, like in the IBM, try to imagine a different way to use the computer system, and they created a home computing. It's interesting to say, to know that a manager from the IBM at the beginning of the 70s say that I don't see why any people should have a computer in his home place. So, and he was producing computer because he didn't see, but the future was really there. And not only computer, they have already ARPANET. They, you know, we could live in the future, in the present, we live now, already in the 70s. So it's a problem of imagination, also for people working, I think, in the science business.
Alors, justement, la question littérature influence-t-il les scientifiques? Il me semble que, alors en réduisant évidemment, on ne fait jamais que réduire les choses, mais il y a trois, en vous écoutant, il y a trois petites réponses à amorcer. Avec d'abord, la première, c'est de se poser la question s'il existe un inconscient. Alors vous choisissez ou non, mais bref, s'il existe un inconscient, c'est donc votre éducation, et ça s'est posé là. Durant votre enfance et votre adolescence, votre jeunesse. Donc ça, c'est la première chose, et c'est lié vraisemblablement au désir qui là existe, que ce soit chez les scientifiques, chez les auteurs de science-fiction ou chez les social scientists, les sciences molles. Donc ça, c'est la première chose qui va influencer votre littérature, c'est votre enfance, tout bonnement, avec le concept d'inconscient, s'il existe. La deuxième chose, c'est évidemment la culture scientifique. La culture scientifique, ça veut dire la valorisation de la science dans la culture générale, ou la valorisation de la science dans la culture avec un C majuscule. C'est-à-dire que hier, la science n'était pas... Quand je dis hier, c'est le XVIIe siècle. Depuis le XVIIe au XXIe siècle, et oui, quand je dis hier, c'est un hier, j'habite au XVIIe siècle. La culture, c'est du XVIIe au XXIe. Ça veut dire, avant le XVIIe, du XVIIe au XXIe siècle, donc jusqu'à aujourd'hui, la culture scientifique n'était pas valorisée comme elle est valorisée aujourd'hui. Donc ça aussi, vous pouvez pas, c'est un filtre, et vous ne pouvez pas passer en dehors du filtre. La troisième chose, donc là, vous voyez, j'avais commencé sur micro-micro, son petit égo. Ensuite, quelque chose d'un peu plus large, qui s'appelle la culture scientifique. Et puis, la troisième chose, ça serait, là, je reviens à notre époque, typiquement notre époque, donc qu'on peut appeler la modernité aussi, mais surtout le capitalisme. C'est-à-dire qu'il y a un rapport entre la créativité et la productivité, et que si on ne comprend pas que les scientifiques, et nous-mêmes, hein, les sciences molles, nous appartenons aussi à un complexe militaro-industriel, eh bien, nous n'avons rien compris. C'est-à-dire que, comme vous le disiez, Tommaso, à partir du moment où les gens vont dans l'espace, et c'est une bonne chose, mais que c'est lié à de la productivité, de la compétitivité, et un aspect guerrier, mais on n'a rien compris. Donc voilà, il y avait ces trois moments. Le moment militaro-industriel qui est toujours présent, qui est une sorte d'économie qui nous permet d'avoir de la science-fiction. Un moment beaucoup plus égo et désir, qui est peut-être anthropologique et qui traverse, ça faudrait voir. Et puis un moment de culture scientifique qui valorise la science à partir du XVIIe.
Oui, moi je voulais rajouter un petit point concernant l'impact que peut avoir le dialogue avec d'autres composantes de la société en tant que scientifique sur des idées, parce que je crois qu'on est, formaté, on a cet obstacle épistémologique qui nous empêche de penser des choses qu'on sait être impossibles. On ne peut pas aller, bon, c'était Bachelard qui avait parlé de ça, mais ça nous bloque complètement. Et j'imagine très bien début du 19e, du 20e siècle, quand on a mis sur le tapis les idées de relativité et de mécanique quantique, l'effort qu'il a fallu faire à certains pour les admettre, simplement. Mais là, j'avais un autre exemple. J'ai fait une conférence sur les nanotechnologies et on me demande, est-ce qu'on peut réduire un être humain? Je dis, ben, le problème, c'est que si on réduit, on n'a plus assez de molécules pour que ça fonctionne. Et donc, on n'a pas le bon... Enfin, on manque d'informations, ça ne va pas. Et quelqu'un dans la salle qui n'était pas du tout scientifique me demande, pourquoi vous ne réduisez pas la taille des atomes? Et là, je me suis retrouvée à dire, mais attends, mais personne, jamais un scientifique n'aurait pu imaginer ce genre d'hypothèse. Et je l'avais trouvée très belle comme hypothèse. qu'est-ce que vous avez à vouloir, vous réduisez tout, vous réduisez pas les briques élémentaires, quelle idée. Et c'était pas bête.
On va inventer l'homme lyophilisé. Ah ben voilà, la momie.
Alors, je dirais que là...
Mais là, on est dans le fantastique. Hein.
Si, si je résume un petit peu, là, pour l'instant, on a vu surtout le côté un petit peu positif de l'impact et de la collaboration entre la science et la littérature. Mais il y a un point sur lequel j'aimerais qu'on discute 5 minutes, c'est sur les peurs. C'est-à-dire la manière dont la littérature peut véhiculer des peurs de la technologie, des peurs de la science. Je pense que...
Oui, je pense qu'il y a au moins un exemple récent qui me vient à l'esprit, c'est quand on a démarré le nouvel accélérateur de particules au CERN, et puis le précédent aux États-Unis, c'était la même histoire. Le public, la presse, les journalistes se sont emparés d'une petite quelque chose qui a une réalité scientifique éventuelle, mais qui, à mon avis, est surtout poussée par les images de science-fiction que les gens ont, qui est la possibilité qu'on crée un tout petit trou noir dans une collision élémentaire et que le petit trou noir grossisse et avale toute la planète, tout l'univers. Enfin, c'est fini, quoi. Et ça, c'est intéressant parce que je pense vraiment, je crois que c'est à ça que tu penses, c'est que là, c'est vraiment une influence entre guillemets négative d'images qui sont très répandues dans la science-fiction. Moi, je me souviens, il y avait un film qui s'appelait Trou Noir il y a très longtemps, qui vraiment ancrait les images sur cette crainte-là. Scientifiquement, c'était assez clair qu'il n'y avait aucun risque qu'un trou noir n'advienne, parce qu'il y a des collisions beaucoup plus énergétiques qui arrivent tout le temps avec les rayons cosmiques. Donc si ça avait dû advenir à ces énergies-là, on le saurait déjà, parce que les rayons cosmiques auraient déjà créé ce trou noir et déjà avalé l'univers. Donc scientifiquement, le terrain était assez solide pour dire que ça n'allait pas arriver. Je pense qu'en revanche, l'imaginaire des gens galopant a vraiment... Et c'est une crainte légitime. Enfin, il faut quand même se demander si on va pas éteindre tout en allumant une machine. Donc la crainte était légitime, véhiculée par un imaginaire qui, je pense, vient beaucoup de la science-fiction. La science disait, mais non, il n'y a pas de problème. La presse surenchérissait pas mal sur cette question-là. Aux États-Unis, je suis pas allé jusqu'au bout, mais c'était peut-être pas loin. Enfin, les politiques ont commencé à réfléchir, est-ce qu'on n'arrête pas la machine parce que le public a peur, un peu indépendamment des arguments scientifiques très forts qui disaient, mais non, il n'y a vraiment aucun risque, n'ayez crainte. Donc oui, là, on peut voir peut-être une influence un peu négative... Mais bon, le débat est intéressant de toute façon, je pense qu'il ne faut pas le...
Oui, enfin, il y a eu effectivement cet épisode-là, et puis tout ce qui tourne autour de l'eugénisme.
Oui, l'eugénisme, le clonage, les OGM, la transgénèse, le nucléaire, bien entendu. On peut dire que la science-fiction a réellement véhiculé beaucoup de peurs liées aux faits scientifiques, mais surtout à ce que les technocrates font de la science. Voilà. Hein? On peut beaucoup gloser autour de ça, parce que peut-être séparer ce qu'est la science et ce qu'on fait de la science. Voilà. C'est ici.
To me, it's very interesting that the inventor, let's say, of the modern science is Isaac Newton. Isaac Newton was a scientist, but was also the president of the Bank of England. So it's interesting to me, because when we say that we have a fear about science, we should better say that we have a fear about economy. Because the real problem is not science, but the money that science needs to proceed with the research. Sometimes we have been said that a certain technology is not dangerous for us, just for economical problem. Let's say the use of the cell phones. So we have fear sometimes. We don't trust science, not because of the scientist, but because of the reason of money. I think that probably maybe scientists are less free than the past, because of the economic system we live in. But I myself, I don't have so much fear about a pure scientist.
Oui, justement, vous avez parlé de la peur. Il y a un philosophe qui s'appelle Hans Jonas qui parle d'heuristique de la peur. Alors, c'est un terme peut-être un petit peu compliqué, mais simplement, ça veut dire méfiez-vous. Heuristique de la peur, c'est méfiez-vous. Méfiez-vous, justement, du complexe militaro-industriel que l'on retrouve très bien, je crois, d'un point de vue populaire, au bon sens du terme, dans Alien, avec Weyland Yutani Industry. Et donc, évidemment, que ce soit les aliens et aliens versus Predator, etc., vous avez à chaque fois donc les industries, le complexe militaro-industriel, qui veut collectionner, récupérer la bête. C'est-à-dire que c'est la rationalisation dont je parlais tout à l'heure, la bureaucratisation, l'armée, qui, elle, souhaite récupérer, en fait, le ça, la bête immonde, ce qui est au fond de toi, comme le dit bien un des ouvriers, enfin, comme le dit Ripley, un des ouvriers, il y a quelque chose il y a une bête au fond de toi, et en fait, c'est justement cette animalité qui revient. Alors, pour la peur, une heuristique de la peur, en fait, la science-fiction fait deux choses, il me semble. Elle réécrit des choses qui existent depuis longtemps, c'est-à-dire qu'elle reprend ce qu'on appelle des archétypes ou des mythèmes, bon, bref. Par exemple, le premier, c'est le golem juif hébreu, le golem juif. Évidemment aussi, le péché d'orgueil chez les chrétiens. C'est un des péchés les pires chez les chrétiens. Donc, le péché d'orgueil, c'est le péché de science. Il faut être clair. Mais bon, bref, on l'avait déjà vu ça avec la chute. Et puis, il y a aussi ce qu'on appelle le mauvais génie. Le mauvais génie, évidemment, c'est l'apprenti sorcier. L'apprenti sorcier que vous retrouvez chez Mickey dans Fantasia. Excellent dessin animé où on voit justement... Mickey avec vraisemblablement en plus un apprenti, enfin lui est apprenti sorcier. Et puis tous ces mots, apprenti sorcier, golem, péché d'orgueil, ça peut s'appeler en philosophie le mot dialectique, c'est-à-dire que l'homme fait des choses mais maîtrise assez peu, et donc on retrouve ce que dit Hans Jonas, méfiance, parce que nous ne maîtrisons pas grand chose alors que nous sommes justement dans un péché d'orgueil, et on a bien raison, enfin en tout cas moi je... Il faut être, enfin, là, c'est quand on est progressiste. Normalement, ici, il devrait y avoir que des progressistes au sens où la science améliore le monde. Mais évidemment, heuristique de la peur, oula, méfiance quand même.
Oui, alors, les points dont tu viens de parler, ça me paraît intéressant, surtout les mythes dont on parle régulièrement en tant que crainte qu'on retrouve. Il y a aussi le fait de toucher à l'être vivant. La peur de modifier le vivant, ça c'est évident. Et au cours de mes conférences sur les nanotechnologies, je conclus toujours en présentant les peurs et les risques de deux façons séparées, pour ne pas mélanger les deux. Et je crois que c'est important de ne pas mélanger les risques toxicologiques liés aux nanoparticules sur lesquels on peut faire des études, et les peurs ancestrales contre lesquelles on ne peut rien si ce n'est rester vigilant, faire de la en parler, essayer de voir où on en est exactement, mais contre ces peurs on ne peut rien. Ça ne sera pas des explications rationnelles qui vont calmer les peurs, c'est pas vrai. Alors que les risques, on peut on peut demander de faire des études.
Bien. Écoutez, je vous remercie beaucoup. On a abordé tout un tas de sujets. Maintenant, je propose de demander au public s'ils ont des questions, s'il y a des choses dont ils veulent que nous discutions, s'il y a des sujets qui vous intéressent autour de ce rapport entre la science et la littérature.
Oui. Bonjour, merci pour tout ce que vous avez pu dire, qui était passionnant. Mais il y a une chose dont vous n'avez pas du tout parlé et dont j'aimerais bien que vous parliez, c'est, pour le dire avec des mots simples, la question du style. Parce que je pense que même dans un projet scientifique, il y a un désir latent de faire quelque chose de beau dans les équations. Je ne sais pas dans quelle mesure, enfin, il y a la question du contenu, bien sûr, mais au-delà du contenu, il y a une certaine façon de vouloir donner une forme à ce contenu, et je pense que les scientifiques ne sont pas insensibles et sont aussi habités par le désir de donner une forme. Et évidemment, l'écrivain, il n'y a pas que l'histoire, il n'y a pas que le récit, il n'y a pas que ce à partir du quoi il... s'appuie ou s'imagine, il y a aussi le langage, qu'est-ce que l'on fait de ce langage, quel style, quel rythme on donne. Et vis-à-vis de la science-fiction, j'avoue que j'ai toujours un petit problème lorsque je lis de la science-fiction, comme c'est une littérature assez populaire, c'est la question de la traduction et de la qualité de la traduction. Je me demande parfois si certains livres en français sont absolument merveilleux, parce que le traducteur était merveilleux, mais finalement le texte original en anglais peut être atterrant. Et là, bien sûr, je m'adresse à l'écrivain italien qui est confronté à ces questions-là. Et comment, justement, répercute-t-il aussi cette question du style ? Voilà.
Alors, on va essayer de répondre en deux temps. D'abord, on va parler un petit peu de la notion de style et comment est-ce qu'on fait passer...
C'est évident qu'on a une recherche, quand on est en science, d'un formalisme et d'une simplicité, d'une sorte d'évidence. En revanche, lorsqu'on veut traduire ça en mots, on n'a pas toujours les outils. Alors, ce que j'ai pu constater, c'est que parfois, lorsque des non-scientifiques veulent utiliser une explication scientifique dans leur texte, ils perdent leur propre style. Il y a une sorte de déférence envers la science qui fait qu'on a peur de dire des bêtises, et on sent, c'est drôle, on sent un moment de crispation en se disant, là, il ne faut pas que je me laisse aller, je garde la maîtrise de ce que je vais raconter, alors que quelqu'un qui utilise ses propres idées scientifiques va chercher au contraire à les mettre dans le style naturel de ce qu'il raconte auparavant. Donc ça, c'est peut-être un premier élément de réponse. Après, sur le travail de mise en forme des idées, je crois que c'est un peu tous ensemble. C'est pour ça que je disais de travailler relativement en amont des idées, en dialogue artiste ou écrivain et scientifique, de façon à éviter une mise en forme qui ne correspondrait pas de la part du scientifique, qui serait ensuite mal reprise par les autres créateurs qui peuvent faire des choses à partir des idées premières. Bon, ça, c'est mon point de vue. Maintenant, je passe la parole à...
Alors après, effectivement, il y a la partie traduction. Alors, est-ce que la traduction, ça apporte ou ça peut enlever quelque chose?
I think that style can be considered as a problem of beauty. And I don't know if it's true, but in a physics book, I read a statement about style, which is that if a theory is not beautiful, there is a problem in it. And that's an interesting statement, because it's the same thing when I write. If the style is not good, there is something that cannot work in my novel. But I think that beautiful things are dangerous too. For one thing, because we can fall in love with it. For instance, I don't want to steal the work to my friend philosopher, but the paradox of Zenon is beautiful. When they explain why the Achilles cannot reach the turtle, is fascinating. Stylistic is perfect, it's beautiful, but it's not true. The reality is that Achilles reach and pass over the turtle. So it's a very complex, it's a question. But I during the years as writers, I was able to learn that also imperfection is important.
Après, on parlera de la traduction.
Oui, je voudrais revenir. Enfin, oui, Tommaso, j'ai deux points. En fait, c'est la question de beauty. En philosophie, ça serait la question du beau, et en psychanalyse, ça serait la question du jouir. Jouir du monde, jouir de soi, c'est-à-dire du monde, puisque nous sommes un moment, une particularité, quelque chose qui appartient au monde. Donc ça serait le jouir et le beau. Et évidemment, le style est à l'exacte distance entre la subjectivité et l'objectivité. Et c'est pour ça que ça nous plaît, c'est pour ça que nous cherchons absolument le style, car il y a une synthèse dans une personne. La beauté d'une femme ou la beauté d'une formule mathématique... Excusez-moi, je compare, mais c'est pas... Mais la beauté d'une femme, la beauté d'un homme, la beauté d'un être humain, ou la beauté d'une formule mathématique, c'est justement la synthèse qu'il y a entre cette part de subjectivité et cette part d'objectivité. Il y a évidemment, c'est ce que tu disais, Tommaso, c'est la recherche en fait de l'émotion. Et qu'est-ce que l'émotion ? C'est, enfin, l'élévation par le beau, c'est ce que tu disais, c'est typiquement humain. C'est-à-dire que nous nous séparons, c'est en recherchant de l'émotion, en recherchant à jouir du monde, et oui, en recherchant à jouir du monde, si on est psychanalyse, enfin si on est dans le domaine de la psychanalyse, ou en recherchant la beauté, eh bien c'est à jouir en tant qu'humain. Donc ça c'est important. Alors après, quand tu dis « we can fall in love with it », évidemment, quand nous tombons amoureux de ce que nous écrivons, quand nous tombons amoureux de quelqu'un, quand nous tombons, eh bien c'est justement notre humanité, c'est-à-dire qui peut aller jusqu'à l'inhumanité. C'est bien notre problème, c'est bien le heuristique de la peur, là, pour revenir. C'est que nous pouvons tomber amoureux d'un monstre, nous pouvons tomber amoureux d'une formule mathématique qui est un monstre. C'est-à-dire quoi, un monstre ? Quand on gratte un peu la définition du monstre, c'est quelque chose qui nous montre, monstre, montre, qui nous montre notre humanité, même dans l'inhumanité.
Dur de rebondir.
Oui, ça terminait bien. Alors, je voulais simplement en parler en tant qu'auteur, d'une part, et dire à quel point effectivement le style pour nous, les auteurs, est quelque chose de tellement important. Voilà, parce qu'effectivement on monstre et on démonstre. Cette petite musique, voilà, de nos textes, elle est vraiment primordiale. Et s'il n'y a pas cette musique, bah, on n'arrivera jamais à faire passer nos idées. Voilà. Donc c'est vraiment le béaba de l'auteur. Sans cette musique, bah, il n'y a pas d'auteur, il n'y a pas d'écrivain. Et je peux parler aussi de la traduction, puisqu'il se trouve qu'à mes heures, je suis traductrice, et qu'actuellement, je traduis Connie Willis, qui est une auteure américaine, qui est une grande auteure américaine, qui vient notamment d'avoir le Hugo et le Nebula pour... Un roman qui est en deux parties, Blackout et All Clear. Et je me confronte effectivement à cette difficulté de rendre, en traduisant de l'américain, cette petite musique. Parce qu'on a cette difficulté, parce que les Américains finalement ne sont pas toujours des stylistes, il faut bien le dire. Il y a dans l'usage de la langue américaine énormément de répétitions qui ne leur causent aucun souci, qui ne passent pas du tout en français, énormément de verbes déclaratifs qui, dit-il, qui effectivement ne passent pas du tout dans la langue française. Il y a énormément d'adverbes, beaucoup de lourdeur, de style qui ne vont pas du tout passer dans la langue française. On est obligé constamment d'être dans un processus adaptatif. Et il faut réussir à essayer de trouver cette petite magie tout en respectant complètement le style de l'auteur. Et ça, vraiment, vraiment, c'est un défi. Mais c'est aussi quelque chose d'assez magique de réussir à essayer de rendre au maximum qu'est-ce que ça peut être le roman de cet auteur, le style de cet auteur, et puis essayer de faire un petit plus. Voilà.
Je peux peut-être rajouter quelque chose. Je suis tout à fait d'accord. La littérature doit
en
être belle.
Ça, c'est. Tommaso est bien traduit.
La littérature doit être belle, c'est évident. Tu disais, Tommaso, que dans les sciences actuelles, on aimait bien l'idée que les équations soient belles et des choses comme ça. Ça vient vraiment d'Einstein avec les deux relativités, qui sont des équations très simples, très belles, très élégantes, vérifiées, tout ça. Aujourd'hui, il y a beaucoup de scientifiques, c'est les mêmes dont je parlais tout à l'heure, qui vivent dans cette idée que les équations doivent être absolument belles pour parler de la vérité. Et ils se sont vraiment éloignés du monde dans lequel on vit. Et je ne suis pas sûr que ce ne soit pas une erreur, justement. Et j'aime beaucoup quand tu dis que... Je ne suis pas sûr que ces gens ne soient pas complètement tombés amoureux de leurs équations en oubliant que le monde... sans tomber amoureux du monde qui est autour d'eux et qui est, lui, est assez réel.
Bien, bah écoutez, nous sommes... arrivé avec cette question qui a ouvert visiblement des discussions, arrivé au bout de l'heure, et nous allons donc rendre les micros. Et je vous remercie énormément, je remercie tous nos participants d'être venus et d'avoir parlé entre nous. Voilà, merci beaucoup.